Qui est co-directeur du programme post-digital à l'ANS. Donc, je pense que tu nous présenteras aussi tous ces travaux de recherche qui regroupent justement la thématique mémoire du futur que tu abordes sous un angle particulier. Et tu travailles aussi depuis un moment avec Grégory Chatonsky, qui est artiste et théoricien de l'art, qui travaille entre Montréal et Paris, et bientôt Bruxelles d'ailleurs. Et vous menez donc tous les deux une réflexion autour de cette thématique, comme quoi il y a toujours des thèmes qui se regroupent et qui se disséminent au même moment, au même temps, comme la revenance, qui est un thème qui revient d'ailleurs. Toi, tu vas faire, Grégory, un post-doc justement dans ce travail de recherche, mais peut-être je vais te laisser. Tu veux prendre la guidance de...
Oui, ou sinon juste je vous dis comment passer d'une slide, d'une slide à une autre, mais je crois qu'on peut commencer rapidement, et peut-être que je vais me lever puisque le micro est pour un peu bouger. Donc, très rapidement, malgré le fait que l'équipe précédente est partie, c'était assez amusant pour deux raisons de voir le truc sur Upline Price avant. D'une part, parce que j'avais vu à Jouy-en-Josas une exposition qui avait... Il y a très longtemps, ça devait être en 90-91, une exposition sur le thème du visage, faite par Georges Duhlermann, où il y avait un travail de Catherine Icam, qui s'appelait L'Autre, et où globalement on portait un capteur, donc le dispositif était très lourd, on portait un capteur et on avait une espèce de visage qui réagissait à notre présence et qui parfois se retournait et qui se dévoilait comme un masque. Et moi, ça avait été vraiment un moment important, qui avait un peu décidé de ce que j'allais faire, et puis... même si vraiment le moment déterminant, ça a été la visite des immatériaux quand j'avais une quinzaine d'années. Et puis, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, qui était marrant aussi sur Revenance. Les images, on ne les voit pas très bien. Mais c'est qu'en 99, avec Rénal Drouin, j'avais fait un dispositif en réalité virtuelle qui s'appelait Revenance, c'était le titre, et qui était une espèce de navigation en réalité virtuelle dans un univers fantomatique, un peu inspiré de loin de la lecture de Spectre de Marx de Derrida, qui était une espèce de... comme ça, de où il y avait des spectres, des fantômes, et c'est amusant de voir revenir d'une part ce thème de la revenance, mais de voir revenir aussi la question de la réalité virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qui par définition est spectral et dont la structure historique est devenue spectrale dans la mesure où on a eu une espèce d'incroyable buzz sur la réalité virtuelle dans les années 80-90, c'était vraiment le sujet. Quand j'étais étudiant, moi j'ai fait mon master sur la réalité virtuelle et la spectralité chez Derrida, c'était vraiment le gros sujet, et puis là on revoit revenir les choses comme ça, et donc c'est assez amusant. Bon, maintenant peut-être qu'on peut passer à la slide. Ah bon, il manque une vidéo. Il n'y avait pas un juste avant, si on remonte, juste voilà. Ah ben on voit pas. Ok, donc les vidéos marchent pas. C'est pas si grave que ça. Donc il y a des vidéos, mais c'est pas grave. En fin de compte, je vais vous décrire. C'est très bien. Je vais vous décrire ce que normalement on devrait voir. On devrait voir cette petite boule noire qui est devenue très fantomatique, un peu comme les black dogs. Qui sont dans les photographies qu'on ne voit pas du tout, ce petit chat, ce petit chaton, se bat contre une sculpture de chat. Et en fin de compte, n'arrête pas de le griffer. Et il reconnaît quelque chose qui est du côté du semblable. Alors, quand Marion m'avait invité, peut-être qu'on peut aller sur le mort et le vif, quand Marion m'avait invité sur le thème mémoire du futur, j'ai eu un peu peur parce que dans le champ de l'art contemporain, la question de l'archéologie du futur, de mémoire du futur, est devenu, je dois l'avouer, une espèce de lieu commun, d'une platitude un petit peu énervante. C'est-à-dire, qui n'a pas fait un iPhone fossilisé, moulé? Alors c'est facile à faire, on moule, on fait un plâtre, et puis on recouvre ça un peu de pierre. Dans une démarche assez étrange, un peu de pop art, c'est-à-dire de fétichisme de l'objet et de la marchandise, en même temps qu'une espèce de truc un peu postmoderne. Donc il y avait quelque chose d'une certaine réticence, et c'est vrai que depuis 15-20 ans, il y a tout de même des travaux intéressants. Alors, j'ai tout de même un petit fil conducteur que je vais essayer de suivre. Il y a tout de même des travaux très intéressants. On peut passer on avance, on peut avancer encore une fois. Il y a tout de même des travaux intéressants dont un peu la synthèse a été faite par Arnaud Pierre, excusez-moi, dans un livre qui s'appelle Futur antérieur, art contemporain et rétro-anticipation, avec des travaux comme... ceux de Lamoureux, Zarka, Grasso, etc. On a parlé un peu de modernité, j'aimerais revenir à ça, et puis je vais aussi après revenir dans le cheminement sur la question art-théorie, parce qu'on m'a mis théoricien de l'art, ce qui me semble une idée très étrange d'être théoricien de l'art. C'est une idée étrange. Donc je reviendrai là-dessus. Mais il y a eu tout un effet de mode à un moment, il y a eu une espèce de mouvance de revenir à des signes de la modernité, parce que quasiment après le postmodernisme, on avait le sentiment qu'on n'en avait pas terminé. Et moi, je pense qu'on est maintenant à une autre période, c'est qu'on se tient plus tellement aux signes d'une espèce de modernité, avec des couleurs, avec une fascination pour l'architecture moderniste. C'était un peu le propos sur l'accélérationnisme ou la politique accélérationniste, c'est que dans une certaine génération, il y a un désir de retrouver un projet d'émancipation et un projet de transformation de la société hégémonique, qui pourrait faire face à l'hégémonie du capitalisme. Donc je vais essayer de très rapidement, parce que c'est un énorme sujet en fin de compte, mémoire du futur, et je ne sais pas très bien par quel bout le prendre, de très rapidement traverser une partie de l'histoire pour essayer de vous montrer qu'effectivement le passé, le futur en art, c'est au cœur de certains dispositifs et de certaines interrogations, et que c'est un élément qui est fondateur dans la société. Ce n'est pas seulement des questions artistiques qui sont fermées dans le milieu de l'art, etc. C'est des questions qui sont fondatrices. Et bien sûr, à mon avis, l'un des éléments majeurs pour comprendre la modernité, c'est Pompéi. Et la découverte étonnante de Pompéi, donc de ses corps, et particulièrement le procédé qui a permis de voir ces corps, qui sont les corps d'une civilisation passée, qui a disparu très brutalement. Et le procédé, c'est un procédé de moulage où les personnes ont été ensevelies sous une pluie, je dirais, volcanique, et tout leur corps, chair comprise, a été comme moulé, puis la chair s'est dégradée et a laissé du vide, et ensuite, on a moulé ce vide. Et c'est ça qui a permis de sortir les corps de terre. Il y a là quelque chose de, je dirais, d'assez étrange, parce que on peut passer peut-être à la slide. Alors ça, c'est Pompéi, et c'est un scan 3D de Pompéi. Donc on peut passer aussi à la scan suivante, je suis désolé de prendre ça. C'est qu'il y a un phénomène assez étrange, qui est que quand on voit une civilisation, quand on voit les traces d'une civilisation passée qui a disparu, ça ne reporte pas sur le passé, ça reporte sur la possibilité et la certitude que nous avons, du fait que nous allons disparaître. C'est-à-dire que quand nous voyons Pompéi, l'image que ça nous renvoie, c'est que notre civilisation va disparaître inévitablement, quoi que nous fassions. Et que donc il y a une espèce d'anticipation de la disparition, ce qui fait que, très concrètement, dans les grands récits de la civilisation, la destruction de civilisation, de civilisation passée fait partie du récit de la constitution d'une civilisation. Donc entre la construction et la destruction de la civilisation, entre la mémoire et le futur, il y a une coexistence et une coextensivité que l'art n'a eu de cesse de mettre en œuvre. On peut passer peut-être à la scène suivante. Alors, avec plein de figures, la figure de l'antiquaire qui va fouiller, la figure bien sûr du chiffonnier chez Benjamin, bon, je n'ai pas le temps de tout déployer, mais bon, c'est des figures qui sont devenues très importantes. On peut passer à la suivante. Et bien évidemment, bon, la Claude Lorrain, le fait que, donc au XVIIe siècle, tableau 1630, 1640, le fait que dans l'apprentissage des artistes, aller à Rome, c'est-à-dire voir des ruines, faisait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour que l'art apparaisse dans la propédeutique artistique, il fallait aller voir des ruines, d'où l'intégration dans les arrière-plans de ruines, et la très grande valorisation en Occident, on peut passer à la suivante, de ruines. Alors là, bien sûr, Hubert Robert, très 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 connu, bon, l'histoire, donc vous connaissez l'histoire, bon, peintre du roi, qui a des démêlés avec la Révolution, et qui peint ce tableau hallucinant, du Louvre, ancien palais des rois, qui devient le musée pour le peuple, et il le peint en ruine, c'est-à-dire qu'il anticipe une ruine, et d'ailleurs le titre du tableau, c'est « Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine ». Il y a une espèce d'anticipation de la disparition qui est propre à toute société. Il y a un très bon livre de Jared Diamond qui s'appelle « L'effondrement », je crois, et qui est une espèce de série de récits sur, c'est un anthropologue, de récits sur la disparition des civilisations et la manière dont elles ont anticipé et dont elles savaient qu'elles allaient disparaître. Ce qui nous arrive, je vais y revenir après, maintenant, ce n'est pas très nouveau, le fait d'anticiper cette disparition. On va passer à la suivante. Alors bien sûr, ça nous a amené vers le Grand Berlin, inspire le projet national-socialiste, qui d'un point de vue architectural a complètement intégré cette question de ruine, d'une manière extrêmement intéressante, qui est, comme vous le savez, le stade de Nuremberg, mais aussi le Grand Berlin, était prévu pour faire de belles ruines. C'est-à-dire qu'il était prévu que ces bâtiments allaient disparaître et qu'il fallait qu'il s'effondre bien. Et tout le stade de Lyon-Imbert est fait pour bien s'effondrer. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que dans le politique est soumis à la corruption, et que la seule manière de préserver un régime politique de la corruption, c'est d'intégrer la corruption dès le début. Là, on retrouve une structure qui est très fréquente en Occident, j'ai pas le temps de développer, mais qui est vraiment passionnante, à mon avis. C'est, entre autres, dans les prologues platoniciens, dont le Protagoras, vous savez, ça commence toujours par « J'ai rencontré un tel dans la rue qui me raconte que quelqu'un d'autre lui a raconté un événement, qui lui a raconté un événement. » C'est-à-dire que dès le début, dans les prologues, très étrangement, c'est mis dans une chaîne de transmission. Et pourquoi ? Ça permet à Platon de préserver le logos de toute corruption. Si le logos est dans le récit originaire déjà corrompu, alors plus rien ne pourra lui arriver. Ce qui fait que la ruine et la construction sont une espèce d'ambivalence profonde et structurelle. On peut passer à la... parce que là, t'as sauté une... Voilà. Alors, bien sûr, l'un des événements majeurs, c'est le 11 septembre, bien évidemment, dans cette disparition de la civilisation, avec ces images très étranges qui sont belles. Bien évidemment, on est tous programmés pour ça, pour aimer les images de ruines, parce que cette image du World Trade Center, au-delà de son référent, est belle, et parce qu'effectivement, dans le terrorisme, il y a l'idée de la production d'une image. C'est-à-dire, c'est au-delà de l'événement et de l'impact, c'est la production d'une image qui consiste effectivement à faire une image chargée de sens qui est surdéterminée par notre culture occidentale, par la ruine, etc. Jusqu'à, effectivement, la Syrie, donc Palmyre, où il y a deux éléments en Syrie qui sont, et dans les derniers conflits, qui sont absolument, moi, quoi, je trouve absolument passionnants. C'est la destruction d'un environnement de vie contemporain où il y a des individus qui vivent, comme ça, et des lieux archéologiques, en fin de compte. Et la communauté internationale, quand les lieux archéologiques sont détruits, sont attaqués, réagit beaucoup plus que quand il s'agit de lieux de vie, finalement. Et donc, il y a un drôle de télescopage entre ces lieux de vie détruits, ces lieux archéologiques détruits, et l'idée d'un patrimoine mondial, l'idée que d'une appartenance mondiale de ça. Donc, le statut des ruines n'est pas le même, et leur charge d'avenir, c'est-à-dire leur préservation, n'a pas le même sens. Donc, ça veut bien dire que la ruine doit être préservée et que structurellement, elle concerne le futur. C'est pas le fait du hasard, cette chose. Ensuite, bien évidemment, on est confronté ce qui motive une grande part, je pense, de mouvements intellectuels aujourd'hui, c'est la question de l'extinction de l'espèce humaine, qui est une question fondamentale auquel on est confronté, et qui ne relève pas seulement du fantasme qu'on pourrait déconstruire, d'un discours catastrophiste, que d'ailleurs a déconstruit Derrida, mais qui relève d'une réalité scientifique et probable, c'est-à-dire que nous devons anticiper notre extinction. Alors, il y a quelque chose d'assez étrange dans ça, c'est le fait que, de la même manière que nous nous préparons à notre mort, qu'est-ce que ça veut dire que se préparer à sa mort et qu'est-ce que ça veut dire que se préparer à l'extinction de son espèce ? Et ça pose la question assez intéressante du dernier être humain, c'est-à-dire qui ne pourra plus se reproduire, qui sera le dernier. Ce sera quoi sa vie, finalement, d'être le dernier ? Quel sentiment ou quel être au monde il aura ? Ça me fait penser à Jameson qui disait « Il est plus facile de penser la fin du capitalisme que de penser la fin du monde. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe de réalité, qui n'est pas le monde, c'est le capitalisme ou le néolibéralisme. On peut passer au projet suivant. Donc ça a amené donc, toute cette anthropocène, ces poubelles, à des projets artistiques, dont celui de Thomas Thwaites, donc Toaster Project, que vous connaissez sans doute, peut-être, qui est donc l'idée de faire un grille-pain, de refaire un grille-pain totalement, c'est-à-dire de zéro. Donc de refaire complètement le cheminement, le plastique, l'électricité, le métal, de tout refaire à la main. Et donc ça mène... donc là, c'est le... On voit pas, c'est un peu flou, mais on voit 22 livres, c'est le prix, 22 euros, et le prix de ça, c'est 1500 euros. C'est-à-dire que pour faire un grille-pain, ça coûte beaucoup plus cher. Ce qui veut dire que tout le schéma de production est de plus en plus abstrait. Ça mène aussi à d'autres pratiques artistiques comme Christophe Quintera en 2004 avec Conflit d'intérêts où il s'agit de percer un aspirateur et donc de percer l'immunité d'un aspirateur qui va garder la poussière et lui, sa poussière va sortir parce que c'est toujours percé. Donc d'assembler des objets techniques qui ne vont pas ensemble. Le suivant, on verra pas. Ça passe automatiquement. Ah voilà. Alors, on verra pas, mais je vous explique que ce que c'est une petite vidéo que j'avais faite. Ah, ça marche. Celle-ci, elle marche. Donc, c'est un phénomène auquel je me suis intéressé, c'est le tech porn. Un téléphone portable. Sur lequel on tire une balle et qui est neuf. Et il y a un phénomène assez intéressant dans ce tech porn, c'est-à-dire dans cette espèce de cruauté blanche et décomplexée par rapport à la technique. Vous savez, sur YouTube, il y a plein de vidéos où il s'agit de défoncer de la technique, quoi. Il s'agit de les éclater et donc de consommer la technique et donc d'anticiper l'obsolescence, d'aller plus vite que l'obsolescence, c'est-à-dire de faire mal à la technique. Et il y a là quelque chose qui concerne aussi une espèce d'anticipation de la disparition. Et puis, je vais passer... Ouais. Alors ça, c'est un projet que j'avais fait au Musée d'art contemporain de Taipei, et on comprend mal les proportions, mais ça, de hauteur, ça fait... cette image, elle fait environ 8-9 mètres de hauteur, donc c'est des très grandes proportions. Un projet au Musée d'art contemporain de Taipei et à Pékin, à Beijing, qui consistait en un terrain de fouille archéologique du présent. Sauf que, il ne s'agissait pas de fétichiser l'objet, parce qu'il s'agissait réellement de créer un environnement. Peut-être qu'on peut passer au suivant. Il y a un certain nombre de... Bon, là, vous voyez ce type de choses-là, qui est assez classique, au suivant. Il s'agissait de créer un environnement plus complexe, plutôt que de s'attacher au fétiche de l'objet. Il s'agissait de s'attacher plus à un environnement et à une expérience. Par exemple, là, c'est des corps humains, des textures 3D de corps humains mis sur du tissu. Passer à la suivante. Bon, d'autres moulages en céramique faits en Chine. Des écrans éclatés, et là une colonie de virus où il s'agissait de laisser des virus dans un ordinateur isolé et de le laisser complètement se développer pour créer des images, et ainsi de suite. Donc voilà. Et dans ce projet Télofossile, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'était d'essayer de créer une perception sans nous. C'est-à-dire essayer de mettre les gens dans la situation où l'espèce humaine a disparu, et il s'agirait de percevoir notre disparition sans nous, sans être humain. Et c'était ce décalage qui m'intéressait, en tout cas cette fiction, cette spéculation. Le deuxième élément qui me semble fondamental dans le sujet qu'on aborde, si je l'aborde, vous me direz stop, c'est bien sûr la question de la mémoire, et moi ce que j'appelle la mémoire des anonymes. C'est-à-dire cette transformation historiale, c'est-à-dire cette transformation non pas de notre histoire, mais de la manière de faire de l'histoire, avec le fait que par plusieurs techniques, dont principalement Internet, les anonymes que nous sommes ne cessons d'être enregistrés. Et à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que, non pas la mémoire, l'histoire, c'est l'histoire des scientifiques, des politiques ou des artistes qui parlaient à la place des autres. C'est la mémoire de n'importe qui. Et on peut se demander quel sera le statut de l'art à partir du moment où on a l'entièreté de cette mémoire. Qu'est-ce que font les historiens dans 100 ou 200 ans pour traiter cette mémoire-là ? Et le fait que ça change même la méthodologie pour expliquer cette mémoire. Alors bon, le projet très connu de Mark Winself, donc depuis 91, chaque année, il se fait une prise de sang, il moule son visage en sang qu'il tient dans un frigidaire, donc au froid, avec cette belle idée que si le froid cesse, le moulage de son visage fond et redevient du sang et se coagule. Donc cette espèce de précarité, de fossiles précarisés de l'image du visage, de quelle que soit la manière dont on en parle. Et encore aussi, ensuite, bien sûr, le travail, à mon avis, très important de Paul Tech, au milieu des années 60, avec sa série Les reliques technologiques, qui en font partie, où il a essayé, je crois, de créer une espèce de zone grise et indistincte qu'on avait vu émerger dans le précédent panel, dans le panel sur l'accélérationnisme. Une zone grise indistinguable entre la question de la technique et la question de l'anthropologie. Voilà, encore Paul Tech. Donc, comment anticiper sa mort ? Donc, c'est son tombeau, en fin de compte. C'est lui, en fin de compte, qui est allongé là. Ou encore Urs Fischer, avec ce projet qu'il avait fait à la Biennale de Venise, où il s'agissait de greffer sur une sculpture en marbre des ajouts en cire qui fondaient et qui faisaient comme une espèce de grotte, des stalactites. Et de mêler le dur et le mou. Ou encore, alors là, c'est Hans Eckelbaum, People of the 21st Century, qui une série de photos très étranges, où il s'agit d'assembler des photographies avec des choses qui se ressemblent. Donc là, par exemple, un manteau militaire. Et le photographe explique qu'il a fait ça sans objectif et qu'en fin de compte, à la fin, il avait l'impression d'être un extraterrestre et de voir l'espèce humaine de l'extérieur. Donc cette espèce de position d'extériorité et d'anticipation de la disparition. Ou encore ce projet-là qui consiste à automatiquement aller chercher sur le darknet d'acheter des choses automatiquement sur le darknet et de progressivement remplir les questions que vous voyez là comme une espèce de consommation particulière. Et bien sûr le travail de Yan Cheng. J'ai pas le temps de beaucoup en parler, mais c'est vrai qu'Yan Cheng, qui est un artiste super, je trouve hyper intéressant, il fait toujours des marécages, c'est-à-dire des espèces de marécages primordiaux avec des objets contemporains, mais une espèce de marécage constant qui est le monde dans lequel nous vivons. Et je vais m'arrêter tout de même 5 minutes à ce programme, une minute à ce projet, donc Simon Denis, qui rejoue une réunion à tenue secrète de Samsung, je crois en 93, où Samsung définit ses cadres managériales et sa stratégie, et qui a mené Samsung à la position dominante où ils sont aujourd'hui. Et donc il y a l'idée aussi là d'une espèce d'archive, de ramener du dessus, et en plus l'exposition est accompagnée d'un livre absolument énorme de documentation sur cet événement, de faire d'un événement totalement anodin une espèce de chose qui est devenue importante parce que c'est son impact a été très important. Enfin, un projet que j'avais fait à Bruxelles et à Québec, donc des mémoires éteintes, où en fin de compte, peut-être qu'on peut avancer jusqu'à ce qu'on voit un homme, où je m'étais intéressé à Urs Holt. Donc Urs Holt, c'est l'un des 10 premiers employés de Google, et c'est la personne qui s'occupe de l'infrastructure de Google, c'est-à-dire de l'infrastructure matérielle. Donc je l'ai contacté sur Google+, on a commencé à discuter, je ne lui ai pas dit que j'étais artiste, bien sûr. Donc j'ai récupéré le premier contrat d'hébergement de Google en 98, où ils avaient un petit serveur avec le prix et tout ça. Et puis j'en ai fait le personnage principal, et c'est quelqu'un de très discret, il est suisse, il est vraiment très discret. Mais il a une importance capitale, c'est lui qui a développé toute l'infrastructure matérielle de Google. Donc moi je m'intéresse beaucoup à la matérialité technologique, l'immatériel je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais compris ce que c'était, donc je m'intéresse qu'aux structures matérielles. Et donc j'en ai fait le personnage principal d'une exposition, qui est une espèce de data center dans le désert finalement. J'ai récupéré le maximum de données sur Internet de Urs Holt et ça m'a permis de créer une espèce de film génératif qui n'arrête pas d'aller chercher sur Internet des informations sur lui. Donc je l'ai invité au vernissage. Et là, je n'ai plus de nouvelles de lui parce que je pense qu'il était effrayé de devenir un personnage public parce que je crois qu'il ne le veut pas trop. Peut-être qu'on peut avancer. Donc avec des références à la cybernétique, au livre de Norbert Wiener's Human Use of Human Beings, on peut encore avancer. Ah, on peut reculer. Et donc, malheureusement, sur ces images, on ne voit pas, mais c'est un truc important dans ma démarche, c'est le fait que je numérise maintenant systématiquement toutes mes expositions en 3D et que je les réintègre dans l'exposition. C'est-à-dire que l'archive de l'exposition est immédiatement là, dès l'ouverture. Alors malheureusement, on ne voit pas les images, mais c'est ce que je fais entre autres à l'UNS, c'est le même procédé. Et aussi, comme je jette beaucoup de choses, parce que c'est trop gros et je ne peux pas transporter, aussi en réalité virtuelle, je mets toutes mes scans dans la mer, dans une espèce de mer en 3D, et puis on peut naviguer dedans... voir tous mes déchets, parce qu'il y a beaucoup dans l'art contemporain, il y a beaucoup de production de déchets. En fait. Alors, pour finir, mémoire du futur. Pourquoi, comment, etc. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelait Roman Mansurenko et de sa meilleure amie Eugenia Kyuda. Roman était russe, ouais. Et il travaillait dans les startups, il avait plein de projets, une vingtaine d'années, et il est mort d'une maladie brutale l'année dernière. Il est mort brutalement et bon, sa famille s'est réunie, c'était quelqu'un visiblement qui avait un grand avenir devant lui. Donc il y a eu l'enterrement, ensuite les gens ont mis sur YouTube des vidéos de lui, etc. Mais Eugenia, sa meilleure amie, n'était pas satisfaite de ça. Et elle travaille dans une entreprise qui, peut-être qu'on peut passer au slide suivant, donc c'est Roman. Donc voilà, c'est Roman. Et puis la slide suivante, alors j'espère qu'on va... Alors malheureusement on n'arrive pas à lire, c'est pas la même définition, mais je vous explique ce que c'est. Et ce qui se passe, c'est qu'elle travaille dans une entreprise qui, entre autres, fait des réseaux de neurones récursifs. Donc, elle a balancé dans ce réseau de neurones toutes les informations, tous les échanges d'emails, tous les chats qu'elle a eu avec Roman alors qu'il était vivant. Et elle en a fait un chatbot avec lequel elle peut discuter et avec lequel ses amis peuvent discuter. Et la réaction des gens est très intéressante. C'est que, alors, malheureusement, on ne voit pas, mais... Mais la discussion est intéressante et n'est pas prévue d'avance. C'est vraiment un réseau de neurones, c'est-à-dire un apprentissage. Donc ça permet à l'ordinateur d'apprendre de manière non directionnelle les choses. Donc on ne sait pas quel va être le résultat. Ce n'est pas des phrases aléatoires qui sont lancées comme ça en l'air. Et en plus, dans le réseau de neurones, il apprend aussi de ce que dit l'autre personne. Et donc parfois, les amis de Roman, mais aussi ses parents, vont sur ce chatbot et discutent avec Roman. Alors tout le monde sait que Roman est mort. C'est évident. Mais il y a un certain plaisir à avoir un tout petit peu accès à Roman, encore aujourd'hui, même si c'est un ersatz, même si c'est autre chose. Et je pense qu'on a mal compris, finalement, sur la mémoire du futur, pour un peu conclure la partie, on a mal compris le rôle d'Internet. On a mal compris le rôle des réseaux de neurones. Internet, c'est pas tellement un moyen de communication entre les êtres humains. Ça peut être considéré comme un moyen pour les machines de s'alimenter des données humaines et d'apprendre de nous, afin de créer un deuxième monde qui ressemblerait un peu au nôtre, mais qui ne serait pas absolument identique, suffisamment ressemblant pour être crédible, suffisamment différent pour être singulier. Et quand on pose les questions d'intelligence artificielle, qui sont à mon avis au cœur de la mémoire du futur, parce que les mémoires du futur, c'est l'intelligence artificielle. Toutes les données qu'on a accumulées vont servir, servent déjà, à prévoir des comportements. C'est, on dit, oui, mais les machines ne sont pas intelligentes. Mais c'est, d'abord, en disant ça, on s'attribue soi-même, être humain, une intelligence qui fait question. C'est peut-être qu'un effet de surface, l'intelligence. Et puis surtout, c'est pas tellement la question. La question, c'est plutôt, est-ce que, comme Eugenia avec son ami Roman, est-ce que nous allons avoir suffisamment de plaisir à discuter encore un peu, par exemple, le jour anniversaire de la mort ou de la naissance des gens qu'on a aimés, pour un peu discuter, même si nous savons que c'est un programme qui tourne. Et donc, dans les technologies, c'est pas tellement dans les mémoires du futur, et c'est ça qui transforme ontologiquement les mémoires du futur, c'est pas tellement de savoir ce qui est vrai ou pas vrai a priori, c'est plutôt la manière dont ça produit des nouvelles réalités et des nouvelles parties de réalité, et dont la manière dont la réalité et les possibles deviennent difficilement séparables.
Je vais passer l'écran à l'autre ordinateur, ok ?
Non, surtout pas. Bonjour à tous. Bon, je suis très, très heureux de participer à ce panel, encore plus après Grégory, parce qu'on a effectivement quelques expériences en commun et en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, je vais attaquer aussi le sujet de mon point de vue qui est un peu différent, pour vous raconter brièvement les sujets qui m'intéressent, sur lesquels je travaille et un peu d'où je viens. Je suis un peu très intéressé depuis longtemps aux intersections en fait. Entre l'art et l'économie, et en particulier aussi entre l'art et les sciences, sur la question de l'intuition artistique et une intelligence prétendument convergente dans les sciences pour produire ce qui serait de l'ordre d'un changement radical, etc. Alors, je vais expliquer ce qui m'intéresse en particulier ces dernières années, puis je vais revenir au sujet en donnant quelques exemples d'éléments sur lesquels je travaille, d'un point de vue de recherche, mais surtout d'un point de vue entrepreneurial, en fait, et vous donner aussi, c'est vrai, peut-être un retour de ce qui peut se passer en ce moment dans la Silicon Valley. Je pense que c'est des éléments qui doivent être abordés ici aussi aujourd'hui, puisque je travaille donc à Los Angeles sur plusieurs projets qui pourront être catégorisés dans les nouvelles mémoires du futur, je pense, ou en tout cas voilà, sur la production d'un nouvel imaginaire très très technologique. Alors, le premier sujet, moi, qui m'intéressait énormément, en fait, sur ces questions de futur, que j'ai vécu un petit peu de front pendant mes études, en fait, donc j'étais en même temps à HEC, Normale Sup, c'était une certaine manière de considérer que le futur était mal distribué, comme dit William Gibson très bien, d'un point de vue déjà géographique, et on était un petit peu fatigué avec un certain nombre de camarades de se rendre compte que les outils qu'on apprenait dans nos pratiques de recherche ou alors en management avaient finalement peu d'impact. On s'intéressait vraiment à la question de se demander, bon, tout ce qu'on produit finalement aujourd'hui, est-ce que ça ne fait pas seulement nous une sorte de travailleurs très remplaçables et à quel endroit est-ce qu'on pourra avoir un sujet de prédilection, là où on va pouvoir voir que ce qu'on apprend a vraiment une utilité quelque part, quoi. Et on est parti comme ça avec plusieurs camarades faire un tour du monde pendant un an et demi dans des pays en développement en travaillant pour des grands groupes et utiliser les différents sujets de recherche qu'on déployait à Normale Sup en économie, aussi en histoire de l'art et à HEC en management pour se dire voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir, dans l'art de l'Inde par exemple, travailler sur des questions technologiques liées à l'apparition de panneaux solaires dans des villages intouchables et donner en quelque sorte, épaissir le temps d'ailleurs, parce que quand on arrivait avec tous ces outils, ce qui était assez formidable, c'est de voir la réaction des gens pour qui on offrait du temps, quelque part. Ils nous disaient, vous allez faire 3-4 heures dans notre journée et on ne vit plus au rythme du soleil. C'était des éléments assez magiques qui ont fait de moi quelqu'un d'assez technophile depuis ce moment-là. Et progressivement, un autre sujet qui m'a vraiment intéressé par rapport à ces questions de futur, c'était de se dire effectivement, comme le mentionnait tout à l'heure Ingrid, que le futur était finalement hyper décevant en ce moment. Il y a une phrase de Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, qui est assez célèbre pour avoir dit qu'on nous avait promis des voitures volantes et qu'on se retrouve avec 140 caractères et qu'on accumule effectivement une série de techno-gadgets qui font dire à un certain nombre d'économistes comme Robert Gordon qu'en fait on ne connaît pas de révolution technologique, que la troisième prétendue révolution technologique de notre ère, en tout cas industrielle, est en fait fausse, qu'on ne mesure pas les gains de productivité de cette ère parce qu'on serait dans une sorte de format d'innovation qui serait passéiste, parce qu'on refuserait justement de se projeter assez loin dans le futur pour envisager des champs d'application véritablement radicaux pour nos différentes productions. Et ce qui m'a intéressé justement d'observer, c'était de savoir bon, déjà si c'était vrai, d'essayer de comprendre si véritablement on n'innovait pas, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'osait pas aborder le futur avec audace, et de voir si, par endroit, il y avait des méthodes, quelque part presque de création radicale, qui seraient intéressantes d'analyser. Et ce qui m'a vraiment passionné, c'était de voir que bon, ça existait, c'est des sujets sur lesquels je travaille particulièrement aux États-Unis, à Los Angeles, mais de voir surtout les procédés par lesquels ils fonctionnent, à savoir, et c'est une raison pour laquelle notamment on travaille sur Post Digital à l'ENS, de voir comment il y a un glissement parfois des avant-gardes de la sphère de la création artistique, entendu comme dans le champ de l'art contemporain, à un glissement véritablement vers des entreprises individuelles, vers des initiatives, vers des projets qui se forment autour de manifestes, autour de mouvements, qui ne se définissent plus toujours comme des entreprises, et qui effectivement, comme tu le dis, d'une certaine manière privatisent le futur, c'est vrai, en tout cas juxtapose des privatisations futures. Donc voilà, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, c'est la raison pour laquelle donc, le programme Post Digital qu'on a monté avec mon ancienne tutrice à l'ENS, qui est spécialiste, et Béatrice Joly-Prunel, qui est spécialiste des avant-gardes, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de voir cette question de décalage, de comprendre ce qui se passait aujourd'hui, ce qu'on était dans, effectivement, dans une sorte de renouveau du futurisme, et comment est-ce que pour la plupart du temps, des entrepreneurs individuels qui s'accaparent ce nouveau méthode, ce nouveau mouvement, en assimilant finalement le travail d'artiste avec des ingénieurs, des scientifiques directement, et je vous donnerai quelques exemples de travaux que je mène là-dessus, là-bas. Un exemple peut-être un peu concret, très très bête, d'un sujet sur lequel on travaille en ce moment en fait avec Grégory. On a depuis mardi dernier 150 étudiants à Paris, sur lesquels on fait travailler, on travaille à peu près sur ce schéma d'utilisation de mémoire, en tout cas de spéculation sur de possibles mémoires du futur, pour les forcer à produire avec innovation. Enfin, en tout cas, dans une innovation qu'on espère plus radicale. Partie exactement de ce principe, qui est de dire qu'en fait, on a prétendument affaire à une technologie qui s'accélère. Certains disent sur un rythme exponentiel, suivant la loi de Moore, etc. Et pourtant, les champs d'application que l'on est capable de définir, en plus, on est capable de savoir exactement ce qu'il faut résoudre comme problème aujourd'hui. Ces champs d'application déçoivent souvent, ou en tout cas les résultats ne sont pas suffisants. L'année dernière, on a monté un programme donc avec tous ces étudiants, donc il y en a 150 d'HEC, des mines, de l'ENS, de 42, et d'écoles de design diverses, où on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de facilité à utiliser des moyens technologiques, ou en tout cas des poncifs sur la technologie, de faire un objet connecté qui sera un nouveau gadget pour des industries. Là, il y a 5 industries qui participent, dans le champ de l'énergie, de l'automobile, etc., transport. Et l'idée était de leur dire, bon, vous avez 2 semaines pour produire des choses. Donc, la première chose qu'on va vous demander pendant une semaine, c'est d'imaginer, dans le cadre en gauche, un petit peu de cette présentation, différents futurs, donc qui reprennent les cônes de réflexion sur le design spéculatif et autres, pour vous forcer à vous mettre dans un horizon lointain de ces entreprises. Donc, ils travaillent à l'horizon 2030, 2050, 2100. Ils doivent rédiger 4 scénarios, 2 scénarios utopiques, un scénario probable, qui est là de l'ordre vraiment d'une analyse économique plutôt, de faire de la prospective avec plein de sujets sur l'horizon scanning, de l'analyse de signaux faibles, etc., des sujets de marché, et un scénario dystopique qui nous paraît essentiel à développer, des sujets sur lesquels pour le coup je travaille moins aux États-Unis, mais qui ici était une manière pour nous d'intégrer une dimension critique à l'innovation radicale et de les forcer en se positionnant à un horizon lointain, de définir un scénario qui pourrait consister, et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur quelque part la mort des civilisations et en tout cas l'anticipation de la mort des industries elles-mêmes, à envisager des scénarios dystopiques pour la société dans son ensemble et pour la société, l'entreprise en particulier. Et pendant une semaine, donc, ils rédigent tout ça, c'est ce qu'ils font en ce moment, en fait. Demain, ils vont devoir nous présenter tous ces projets et ils vont identifier quel est le futur préférable, justement, dans lequel ils veulent construire, en revenant aujourd'hui, rétrospectivement, finalement, produire un premier objet pour les marchés, en fait, aujourd'hui, en 2016. Donc, en essayant de décomposer différentes étapes en reverse thinking sur ces sujets. Ce qui est fascinant, pour en dire simplement un mot, mais on serait heureux de répondre à vos questions juste après, c'est de voir la difficulté qu'il y a justement pour tous ces élèves de se projeter, quoi. D'utiliser le futur comme médium de création, de dire que le futur ne sera pas seulement une destination, mais un lieu de travail, et que le but va être de traverser justement ces 100 années pour revenir 15 jours plus tard avec un produit qu'ils n'auraient pas pu imaginer si on leur avait simplement demandé de produire quelque chose. C'est un prétexte, un détour que j'utilise en tout cas pour les forcer à faire quelque chose qui est de l'ordre de l'audace, du risque. Et bon, on remarque que c'est pas facile, quoi. Que c'est pas facile d'imaginer en tout cas les extrêmes, en tout cas pour les extrêmes les plus positifs. Je vais vous donner du coup maintenant très rapidement en fait des exemples. Alors ça va être vraiment léger et superficiel de sujets sur lesquels je travaille. Et pour vous parler justement de cette nouvelle fabrique d'imaginaire à laquelle j'assume totalement de participer de l'autre côté du monde, là-bas, et vous raconter trois projets, donc XPRIZE, Hyperloop, que vous connaissez sans doute, et un projet d'architecture martienne que je développerai peut-être un tout petit peu plus, pour vous raconter comment j'observe à modeste échelle la manière dont justement il y a un renouveau d'imaginaire très intéressant qui vise à raccourcir quelque part la période, le moment d'inspiration issu de champs artistiques jusqu'au moment de leur réalisation dans les champs scientifiques. Tous ces projets ayant en commun de faire le pari de l'intelligence collective, de l'antidisciplinarité encore plus que de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de réunir des gens qui viennent tous de formations extrêmement différentes et de les faire travailler sur les sujets des autres pour produire une innovation vraiment intéressante, et ayant tous en commun aussi de dessiner des futurs qu'ils jugent eux-mêmes préférables. Et évidemment, vous verrez, c'est toutes les entreprises privées, ce qui pose ici un certain nombre de questions, c'est sûr. Alors, XPRIZE, pour faire très simple, mais encore une fois, je brasse des sujets, mais je pense que c'était intéressant d'en parler. C'est une fondation donc, à but non lucratif, américaine, qui est basée à Los Angeles, qui a à son bord de toute la Silicon Valley, donc les fondateurs de Google, Elon Musk, donc fondateur de Tesla, SpaceX, etc. Et qui, en fait, font le pari, par la compétition, provoquer des bouleversements gigantesques dans le champ de l'innovation. Alors, ce qu'ils font, c'est très simple. Ils disent qu'on est dans un monde qui connaît effectivement une accélération de la technologie exponentielle, voilà, et on est surtout dans un monde qui est capable d'identifier les différents problèmes millénaires et récents que va affronter l'humanité ou qu'elle affronte dès aujourd'hui. Ce qu'il manque seulement pour eux, c'est le lien entre ces problèmes et ces solutions. Et ils veulent les monter, sur un schéma extrêmement libéral, mais en montant des compétitions. Des compétitions entre 5 millions et 50 millions de dollars qui vont lever des centaines d'équipes dans le monde qui vont résoudre un problème. Donc, il y a un programme sur le global learning. Il s'agit de permettre un accès à l'éducation pour le milliard du bas de la pyramide. Il y a beaucoup de projets comme ça qui sont assez intéressants. Je vais vous en montrer un ou deux, notamment celui-ci qui est pour le coup là de l'ordre d'un sujet qui rejoint aussi la mort des civilisations, en tout cas la mort d'une société. Chaque prix étant sponsorisé par une entreprise. Anna, qui est une compagnie d'aviation nippone, s'interrogeait sur le futur, en tout cas la mort de sa propre industrie, à savoir la fin des transports. Et ce qui les intéressait de voir en se projetant justement très loin, c'était comment est-ce qu'ils allaient pouvoir essayer de contourner cette mort. Et leur proposition, en tout cas le prix qu'ils montent pour une vingtaine de millions de dollars dans le monde entier et qui démarre l'année prochaine, c'est de proposer à des artistes, des scientifiques du monde entier de produire des avatars. En supposant un monde du limitless carbon dans lequel on n'aurait plus besoin justement de prendre l'avion, puisqu'on aurait dans le monde entier des avatars qui agiraient, réagiraient pour nous, et que l'on choisirait de visiter un pays, d'interagir depuis son salon, en activant son avatar au Japon, au Canada, et ainsi de suite. C'est des démarches qui partent aussi de cette réflexion de construire, à partir de leur propre mort anticipée, des systèmes finalement innovants, en tout cas qui vont leur permettre de survivre sur le long terme. Un autre projet que je tenais à vous montrer, parce qu'il montre aussi l'engouement qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de projets totalement dingues, mais très vieux, c'est Hyperloop, alors que certains d'entre vous connaissent sûrement, mais c'est un projet que j'ai eu la chance de rejoindre récemment, qui a été donc à l'initiative d'Elon Musk, ce fameux entrepreneur, certainement l'idole de tous les entrepreneurs aujourd'hui dans le monde, pour avoir cofondé PayPal, puis monté SpaceX, qui est le concurrent de la NASA, pour lequel NASA est devenu un client, et qui, voilà, maintenant Tesla, OpenAI, SolarCity, etc., donc qui est dans tous les champs de l'innovation et qui a comme visée finale de nous emmener sur Mars. On en parlera un tout petit peu juste après. Ce qui est fascinant avec Hyperloop, donc c'est un cinquième moyen de transport, il ne faut pas le considérer comme un train, mais voilà, qui va à la vitesse du son, puisque l'idée est de justement pouvoir transporter des gens dans des tubes à air comprimé. Je vous montre une vidéo très rapide, parce que je pense que c'est important de peut-être se mettre un petit peu dans l'esprit aussi de ce type d'innovation. Je me rends compte souvent que voilà, ça peut aider, et puis ça va être plus éloquent que ce que je vais raconter. Ah, je ne sais pas s'il y a du son. Voilà, Elon Musk qui est à l'image, et puis vous allez essayer de voir justement quel est le mode. Ils se définissent justement eux comme un mouvement, c'est pas une entreprise, qui voilà, veut produire l'innovation la plus radicale de l'humanité dans le champ des transports. Quoi. Ah, pas du tout.
I have a name for it. Name for it, which is called the Hyperloop. Imagine a capsule filled with people, right?
You put this capsule inside the tube.
You create a low pressure environment inside the tube.
So you have no resistance.
And it's moving very fast from point A to point B.
Capsule, very similar to an airplane that goes in high altitudes, can travel really fast with very low energy.
Is the main trick to it the vacuum and the fact that there's no friction? Is that the correct main reason why it makes it so fast?
Tesla founder Elon Musk proposed this new technology called Hyperloop, and it's being developed right now in Playa Vista, here in this hangar behind me. Company Hyperloop has teamed up with the students to create this tube technology that's designed to connect cities up to 400 miles apart.
So when Elon published the document, he just drafted a possible way to achieve this. 2 months later, my business partner, Dirk Alvord, took this document, published in our website, the jobs.found, and did a call to action. So, how are we doing this?
We want you all to join the Hyperloop movement.
And we have been like overwhelmed of requests from engineers from all over the planet. Mm-hmm. There were people from, you know, NASA, Tesla, SpaceX, Boeing, MIT.
We want to give the our community that's supporting us the possibility to own parts of the company.
So we are creating the biggest crowdsourcing project in the planet.
The company says it already has several potential investors and wants to take Hyperloop to China in the future.
You have to consider that Hyperloop is not a new idea. Humanity tried to build this system several times in the past.
The race is on. Elon Musk's vision for a high-speed passenger pods known as the Hyperloop is one step closer to becoming reality this morning. One of the known companies competing to capitalize on Musk's proposal announcing today it has struck a deal with landowners in Central California to build the first full-scale Hyperloop along a 5-mile stretch along I-5.
We designed a system that is not only fast, but it can actually produce more energy than it consumes.
It will change the way we live. It's possible today, it's based on existing technologies, and it's the right time, it's the right moment to finally get something doing like this.
In 30 years' time, will you and I be sitting on our rocking chairs going, well, we talked about it then, and he did it?
Voilà, c'est un exemple que je voulais montrer pour montrer un peu une vidéo type de ce type de projet, mais aussi voilà, qui m'intéresse beaucoup parce que donc, je disais par exemple, voilà, il y a des entreprises qui se définissent aujourd'hui autour de Manifest, c'est sans doute le meilleur exemple. Hyperloop, c'est un projet dont les premiers plans d'ingénierie datent de 1799, qui a connu en fait un certain nombre de goulets d'étranglement, d'impossibilités de réalisation pour plein de raisons, souvent de mentalité, parce qu'on pensait d'ailleurs avant l'apparition de l'aviation, on pensait qu'on ne pouvait pas voyager à plus de 100 km/h. Donc là, l'idée d'aller à 1200, forcément, peut poser un peu de problème, mais techniquement, technologiquement, il n'y a pas d'innovation extraordinaire derrière. C'est vraiment une accumulation, une conjonction, une convergence de différentes technologies existantes. Et ce qui est justement fascinant, c'est que ce qui manquait, très certainement, c'était cet élément de mentalité à transformer, et d'où l'idée de ces entrepreneurs de définir Hyperloop comme un mouvement, plus comme une entreprise. Alors très concrètement, comment ça se passe? Il y a effectivement un manifeste qu'on doit signer à l'entrée sur le recrutement, etc. C'est drôle. Et de la manière de participer à ce rêve, à cette utopie, parce que très concrètement, un moyen de transport qui va à 1200 km/h, qui est net positive en énergie et qui est gratuit. Donc quelque chose d'absolument impossible, a priori. Et leur manière d'y arriver, c'est dans cette grande phase de recrutement, d'intéresser chaque travailleur sélectionné au capital de la société. Donc à chaque heure de travail, vous récupérez des parts de la société, vous devez leur expliquer, et puis évidemment l'aspect très technologique et virtuel et drôle du projet, puisqu'on travaille sur un bureau virtuel qui est une version Facebook d'un bureau de travail. Et on est dans 50 pays différents, 520 à travailler dessus. C'est un projet, voilà, qui, moi, dans ces histoires un petit peu de réflexion sur comment est-ce qu'aujourd'hui on peut construire des éléments du futur en rassemblant finalement le plus de personnes possible collectivement sur des ambitions folles, qui m'intéressait pas mal. Et le dernier sur lequel je voulais intervenir brièvement, c'était là encore très en lien avec ce que disait Grégory sur l'espèce d'obsession permanente de réflexion sur une fin imminente, en tout cas même l'obsession de la fin de l'humanité avant même peut-être la nôtre. C'était une initiative que j'ai découverte cet été, que j'ai rejoint cet été, qui s'appelle Mars City Design. La réflexion est très simple, c'est de se dire effectivement, dans le sillage d'Elon Musk, qui explique que justement, pour des chocs exogènes ou endogènes, il y a de fortes chances que l'humanité subisse le même choc que les dinosaures dans peu de temps, et que la logique voudrait, si l'on comparait, et c'est une métaphore assez simple à comprendre, et je pense révèle aussi bien les imaginaires de la Silicon Valley, si l'on comparait finalement notre vie à l'échelle individuelle puis humaine à un ordinateur, et que vous aviez justement tout dessus, vos photos, vos documents, etc., et que votre ordinateur avait crashé il y a 6 semaines, la logique voudrait que vous fassiez une copie de votre ordinateur ou que vous en rachetiez un. Il parle simplement de cette logique depuis 2002 avec SpaceX pour préparer, vous avez dû le voir, il a fait son annonce il y a un mois pour évoquer le plan exact de la colonisation de Mars, pour proposer une colonie d'un million de personnes d'ici à 2035 sur Mars, qui servirait de copie, en tout cas de première échappée de la race humaine, avec cette ambition complètement délirante, mais qui galvanise énormément de personnes. Il y a déjà des listes d'attente pour ces billets qui coûtent 200 000 dollars, qui rassemblent autour d'une ambition commune, une utopie totalement dingue, un certain nombre de personnes. Et ce projet en particulier, en fait, a été monté par une architecte qui a rassemblé autour d'elle des astrophysiciens de la NASA qui travaillaient sur le projet Curiosity, les architectes des bureaux de Frank Gehry, pour se dire « Ok, c'est super, on va donc potentiellement aller sur Mars, mais qu'est-ce qui se passe après ?» Puis on a un raisonnement spéculatif assez drôle et simple, de se dire « Bon, aller sur Mars, c'est sympa, mais après quoi ?» Vous avez sans doute un grand problème de radiation, pas d'eau visible ni rien. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir non seulement survivre, mais vivre, aimer, s'épanouir sur Mars ? Et donc, Masty Design produit par des compétitions, là encore c'est le point commun des trois exemples que je vous donne, à travers le monde, des projets d'installation sur Mars. Je vais vous en montrer un ou deux brièvement, ils ont gagné des projets un peu dingues, et qui ont tous pour ambition en fait construire les premières villes sur Mars, et en particulier les premiers outils qui vont nous permettre, donc des imprimantes 3D qui vont nous permettre de mapper Mars assez rapidement par des habitations vivables. Ce qui est fascinant sur ce projet, moi en tout cas qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il se repose sur une théorie de Frank White autour de l'overview effect, qui est de dire que se projeter, en tout cas partir, dans l'espace ou dans le temps d'ailleurs, permet souvent de en fait, mieux changer de perspective sur son propre temps et trouver des solutions aujourd'hui. C'est là aussi une stratégie d'innovation radicale qui est hyper intéressante, puisqu'il y a énormément en fait, de similarités qui existent aujourd'hui entre Mars et par exemple Los Angeles, en termes notamment d'accès à l'eau, alors évidemment qui est beaucoup plus drastique et compliqué sur Mars, mais qui pousse cette équipe d'ingénieurs et ces architectes à trouver des solutions pour des problèmes finalement que l'on n'a pas encore sur Terre, à un rythme accéléré. Et se faire croire dans des simulations de sol martien dans le désert de Mojave à l'est de Los Angeles que l'on y est, ça y est, les force finalement à résoudre des questions qui intéressent par exemple énormément le maire de Los Angeles pour des investissements pour la ville de Los Angeles. Voilà, on vous parlait de ce projet qu'on a monté qui s'appelle donc Los Angeles Mars, comme Paris-Texas, où l'idée était tout simplement de réunir toute cette communauté d'architectes, d'astrophysiciens intéressés par le sujet, de réfléchir à des solutions ici, aujourd'hui, sur Terre, en prétextant le décalage sur Mars. Il y a vraiment deux temporalités, la construction en 2035 et des solutions aujourd'hui très, très concrètes. Voilà. Je ne veux pas faire beaucoup plus long, je tenais simplement à montrer effectivement quelques exemples de sujets sur lesquels je travaille autour de ces questions que je pense être justement de l'ordre d'une certaine spéculation et sans doute de la construction de nouvelles ruines pour les mémoires à venir. Et voilà, et puis je pensais que c'était un moyen en tout cas de parler peut-être de cas concrets, de ce qu'on peut appeler les différents imaginaires de la Silicon Valley. Avec tout le tropisme géographique que comportent ces exemples, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'en Europe, par exemple, on n'a aucun projet qu'on appelle Moonshot ou X, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher des sujets exponentiels, de chercher une amélioration qui est de l'ordre de x10 et pas de 10% ou pas d'innovation incrémentale qui va chercher à résoudre un mini-problème dans une industrie, pas aller 10 km plus rapide, mais pourquoi pas à la vitesse du son. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, dont je travaille, donc, notamment avec le ministère de l'économie ici. Et voilà, j'ai un petit avis là-dessus, notamment le fait que notre politique spatiale n'est pas extrêmement développée. Et c'est la raison pour laquelle, donc, effectivement, notamment avec Grégory, on réfléchit à différents sujets, et notamment à l'ENS, on réfléchit à faire dialoguer des artistes qui ont justement une interprétation de différents futurs possibles, souvent dystopiques, je dois dire, en Europe, à des possibilités techniques qui n'ont pas vu parfois leur champ possible d'application. Donc voilà, c'est en tout cas les sujets qui m'intéressent beaucoup. Je serais heureux de pouvoir vous en parler plus si vous avez des questions. Et merci encore.
Bien, c'était très riche, très dense, vos deux communications. Peut-être vous avez des questions dans le public. Oui, très bien.
Merci, je suis un peu malade, donc j'avais vraiment envie de rire, de m'éclater de rire en vous écoutant, pour différentes raisons, parce que, en fait, d'abord, sur le dernier discours, une considération, après une autre sur le premier discours. En fait, il ne s'agit pas de l'interdisciplinarité. Le problème, c'est pas scientifique et artistique, c'est toujours classe moyenne. C'est les classes moyennes qui se projettent avec leur manière de concevoir, aussi leurs difficultés historiques actuelles, dans des fuites en avant ou dans des fuites à côté, et ensuite. Donc, j'avance pas plus longtemps sur ça parce que l'invention de l'avion, il n'a pas changé les rapports sociaux. Et ensuite, voilà. Deuxième chose, sur le premier discours, ça me rappelait Thomas Mann. Quand il y avait les nazis en bas qui se rapprochaient de la montagne, et sur la montagne il y avait un sanatorium dans lequel tout le monde était en train de mourir. Mais il fallait esthétiser sa propre mort. On l'a vu, bon, pas mal de la mort à Venise, vous voyez la même situation. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, avec Watteau et la fin de l'aristocratie. Certaines classes sociales, quand ils sont à la fin de leur cycle, ils ne peuvent plus rien faire, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils esthétisent leur fin. Je comprends, parce que les classes moyennes sont en train d'être détruites. Il faudrait s'interroger pourquoi et par qui, et comment on est arrivé là. Leur naïveté historique, aussi aidée par le discours historial, qui c'est très différent du discours historique, ça l'a conduit dans cette situation. Le problème, c'est que c'est une persistance dans cet aveuglement auquel, bon, ceux qui veulent, ils peuvent y rester, mais qu'en fait, à moi, je veux dire, les pauvres, les misérables, ils vont résister sans aller sur Mars.
Merci. Alexandre, Grégory, quelques mots sur cette classe moyenne.
Sur la question de l'esthétisation, je vais essayer peut-être de préciser mon discours qui a été très rapide et que peut-être il aurait fallu prendre plus de précautions. L'objectif pour moi n'est pas d'esthétiser la fin parce que tout simplement c'est un discours qu'on connaît très bien. On le connaît extrêmement bien. On en connaît aussi les conséquences que j'ai par ailleurs signalées. Et pas du tout en étant fasciné par ça, mais en montrant justement que cette logique de la ruine, jusqu'où elle pouvait mener en termes d'auto-immunité, c'est-à-dire en termes de préservation et de fantasme de la préservation. Il s'agissait pour moi, en déployant ça historiquement, de montrer qu'en Occident, il y a effectivement, et je pense que finalement nous sommes d'accord, il y a une importance très grande et structurelle de notre civilisation dans un rapport très ambivalent à la ruine et à la fin et à l'extinction. Il s'agit d'un fait, c'est-à-dire que on a des formes esthétiques, artistiques qui prennent ça. Alors sur aussi l'esthétisation, je pense qu'il y a, une ambiguïté parce que quand on parle d'esthétisation, c'est souvent péjoratif. Mais c'est aussi l'esthétique, c'est ce qui permet de rendre sensible. Et c'est-à-dire de rendre perceptible dans le sens où, et j'ai essayé de le dire, mais dans le fait d'anticiper la disparition de l'espèce, il n'y a pas une fascination pour la fin de l'espèce humaine. Il y a d'une part une forme de réalisme, mais il y a aussi le fait que je pense qu'en se plongeant dans cette position-là, on peut se fournir des armes beaucoup plus importantes pour considérer le présent. C'est en se croyant immortel en tant qu'espèce qu'on se désarme. C'est pas en sachant qu'on est mortel. De la même manière, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la mortalité, la finitude individuelle, c'est que, effectivement, l'existence, c'est un lieu commun de dire ça, mais ça consiste aussi à considérer sa fin et celle des gens qui sont proches. Après, je vais laisser Alexandre répondre, mais sur le fait que ces questions-là ne doivent pas occulter, bien au contraire, des rapports de classe sociale et des rapports de lutte sociale, ô combien je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, il ne faut pas essentialiser une espèce de lutte du peuple ou prolétarienne sans prendre en compte le contexte, je crois, extrêmement puissant et extrêmement convaincant de ce à quoi nous avons à faire face aujourd'hui.
Merci. Alors, simplement pour être sûr que je comprends bien votre question, il y a un sujet autour de l'accaparation des nouvelles technologies par le plus petit nombre, c'est ça ? Et du coup, qui régirait directement le champ de ces applications qui n'adressent pas le plus grand nombre ?
Non, il ne s'agit pas d'appliquer les droits.
D'accord. Comment ?
Je vais continuer, Alexandre.
Je vais le prendre par le bout que je saurais prendre alors, parce que je ne suis pas sûr de voir où.
Il y a des blocs politiques qu'on appelle les blocs sociaux historiques. Il n'y a plus le capitalisme, il y a une société à économie industrielle technologiquement très avancée, dont le pouvoir est disons, dans les mains, pas des groupes de capitalistes, mais des groupes de rentiers financiers. Et ces rentiers financiers, ils ont construit des alliances avec des classes moyennes et aussi des couches de petites bourgeoisies artistiques. Bon, on peut discuter, mais bon. Donc, il ne s'agit pas des grands et petits, des petits nombres et des grands nombres. Il s'agit de l'articulation des milieux sociaux, des conditions de vie, des formes de capitaux et des systèmes de valeurs qui sont reliés.
C'est un très grand sujet.
Voilà.
Peut-être une prochaine.
Peut-être juste un tout petit élément de réponse. Avant nous, il y a eu un panel sur l'accélérationnisme, et justement l'objectif de l'accélérationnisme de gauche consiste justement, alors précisément, mais très précisément, et avec une plateforme politique et avec des revendications précises, à faire en sorte que le progrès technologique ou les transformations technologiques ne soient pas subies mais soit approprié, parce que ce qui influe le plus grand nombre doit être décidé par le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on commence à mettre en place une plateforme de revendication et d'action pour justement ne pas être dans une position à l'écart de ça, mais d'action par rapport à ça. Il y a des alternatives qui se forment. Voilà.
Ouais, alors moi, simplement un mot là-dessus. La raison pour laquelle moi je suis très heureux et fier en fait de rejoindre ce type de projet, notamment pour revenir sur XPRIZE, c'est que la démarche qui est derrière, c'est justement à chaque fois de se demander comment, alors je suis désolé, je vais employer le nom de plus grand nombre, puis ça ne s'intéresse pas directement, mais comment justement on va tenter, pour des technologies qui sont parfois opaques et qui concentrent leurs effets sur en tout cas des choses parfois futiles ou vraiment des choses impactantes, mais pour le petit nombre, de se demander comment est-ce qu'on peut renverser la tendance. La logique que je trouve extrêmement efficace, parce qu'elle l'est, c'est devoir dresser justement ces types de problèmes en se rendant compte qu'en jouant sur les premiers moteurs de nos actions, et effectivement la compétition, le gain, ça produit, en tout cas sur le chemin, des réalisations absolument extraordinaires. Et je vous inviterai à regarder, il y a 9 prix qui sont de l'ordre vraiment de la transformation sociale la plus profonde. Et voilà, je sais qu'à chaque fois que j'en parle ici, en France, je prends des questions étonnantes derrière, mais voilà, je trouve ça très intéressant à regarder, et je serais heureux de vous en parler un peu plus après, s'il vous plaît.
Bien, on va se faire chasser de la pièce, mais je vous invite à poursuivre la discussion autour d'un café à côté. Merci vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu, vous, le public, et puis les intervenants un dimanche soir, dans le cadre donc, de l'IA. Merci.